Le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1.
Le droit et nous dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.
Bienvenue à tous, nous sommes en direct, on va parler aujourd'hui de l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous appeler au 01 55 07 58 00. Le gouvernement a décidé d'augmenter les droits d'inscription des étudiants étrangers dans les universités françaises. Dès la rentrée prochaine, cette mesure aura forcément comme conséquence de diminuer considérablement le nombre d'étudiants africains en France. Aliou Tal, bonjour.
Bonjour Phil.
Alors, en même temps, le gouvernement français veut augmenter le nombre des étudiants étrangers en France pour passer à 300 000 à 500 000 étudiants. Ce qui fait dire à certains qu'on veut diminuer le nombre des étudiants africains dans les universités françaises pour n'en garder que les riches et attirer les nouveaux étudiants venus principalement d'Asie avec beaucoup de moyens. Que pensez-vous de cette augmentation des droits d'inscription préjudiciable aux étudiants africains qui souhaitent étudier en France? La France a-t-elle le droit de prendre une telle mesure? Ne doit-elle pas faire une exception pour les étudiants africains? Nous allons aborder ces questions avec des étudiants étrangers qui sont concernés en premier. Mais chaque auditeur peut nous appeler pour exprimer son point de vue à Aliou Tal. Alors, première question à Aliou Tal. Pour commencer, en tant que juriste et enseignant et en tant que conseiller des étudiants étrangers, pour vous qui animez des ateliers juridiques dans les principales ville de France. Quelle analyse faites-vous de ce choix du gouvernement?
Je vais d'abord commencer, Phil, par vous taquiner en vous demandant à vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure?
Je pense personnellement que c'est une mesure assez difficile pour des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens.
Voilà. Parfaitement. Moi, je pense que globalement, tout le monde pense la même chose.
C'est injuste.
Il y a une certaine injustice au niveau de l'accès au droit à l'éducation qui est quand même un droit fondamental en France. On va rapidement rappeler quel est l'objet de cette mesure qui est envisagée. D'augmenter les frais d'inscription en licence qui passeront de 170 euros à 2770 euros. Et pour tout ce qui est le master et doctorat, de 243 euros ou 380 euros pour le doctorat à 3770 euros. Et ces tarifs sont déjà indiqués de manière claire, bien que pour l'instant, il faut le souligner, il n'y a pas encore un acte légal qui l'a acté. Donc pour l'instant, le gouvernement est encore dans la possibilité de reculer. D'où l'intérêt pour ces associations d'étudiants qui sont concernées d'agir dès maintenant. Et d'où aussi la pertinence de ce débat qu'on est en train de faire et aussi de d'autres débats que font les étudiants entre eux pour trouver des solutions à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à l'analyse, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le gouvernement français ait pris des mesures dans ce genre. Il faudra dire que le gouvernement a pris deux arrêtés qui entérine l'augmentation des frais de scolarité dans les écoles publiques d'ingénieurs et l'Institut des mines des télécoms. Ça veut dire que, à ce niveau, ils ont retenu un principe de résident fiscal. À partir du moment où vous avez fait 2 ans en France qu'on considère que vous êtes résident fiscal, vous pouvez payer les mêmes tarifs dans ces écoles que les nationaux et les européens. Sinon, vous devez payer plus cher, à peu près une fois et demie ce que les étudiants payent dans ces écoles d'ingénieurs. Il y a des gens qui utilisent cet argument pour dire que, alors, c'est légitime. On l'a déjà fait, mais non, on est dans des écoles où la formation est privée. Or, l'enseignement dans les établissements publics, les universités, ça relève du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Donc, ça n'a rien à voir avec le privé. D'où la pertinence de la question à savoir, est-ce que d'abord c'est légitime?
Oui.
Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est légal? Et dans cette mesure qu'on pourra voir, en ce qui me concerne, j'en suis convaincu, il y a une illégalité flagrante qui devrait être contestée devant les tribunaux, préalablement devant les institutions qui sont chargées de gérer l'éducation nationale.
Nous avons justement quelques présidents d'associations des étudiants en France qui nous appellent d'un peu partout. On va commencer avec Monsieur Abdoul Ba. Bonjour Monsieur Abdoul Ba.
Monsieur Adama Ba.
Monsieur Adama Ba. Oui. Monsieur Adama Ba, merci. Alors, présentez-vous.
Bonjour, je suis Ba Adama Daouda.
Bonjour, monsieur Ba.
Bonjour, monsieur Tal, vous allez bien?
Bien, merci. Et merci pour votre intervention.
Je vous en prie. Je suis étudiant en master en droit public. Je suis en même temps le chargé de conférence de l'Union Rémoise des étudiants africains.
Alors, monsieur Ba, donc, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'en tant qu'étudiant étranger, déjà d'une part, et en tant qu'engagé dans la dynamique associative pour défendre les intérêts de ces étudiants africains, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
Merci, monsieur Tal. Cette mesure, je peux que la trouver injuste. Cette mesure, elle met des points d'interrogation sur notre avenir en France. Parce que quand on a quitté nos pays, nos familles, nos amis, on était venus dans l'espoir d'étudier, dans l'espoir de réussir dans nos études. Mais si toujours au lendemain, on nous dit que les frais d'inscription vont pratiquement être multipliés par 20, ça ne peut créer que sentiment de désespoir, de déception et de désillusion chez nous autres étudiants africains en France.
En tant que président d'association d'étudiants, que préconisez-vous justement par rapport à cette mesure? Est-ce que vous avez mis en place des actions concrètes?
Oui, d'abord je précise que je ne suis pas président d'association. Je ne suis que le chargé de conférence de l'Union rémoise des étudiants africains. Bon, ici à Reims, les étudiants sont en train de travailler avec l'UNEF, l'un des principaux syndicats d'étudiants en France, afin de voir les voies et moyens pour essayer de contrecarrer ces motifs. Mais le problème est que, comme l'a souligné tout à l'heure M. Tal, jusqu'à présent, il n'y a rien de concret par rapport à l'effectivité de la mesure. On ne sait pas si ce sera une mesure législative ou si ce sera une mesure réglementaire.
Réglementaire.
Ça va forcément dire si ça va passer par une loi ou par un règlement. Mais c'est que moi, en tout cas, je propose, c'est que ce qui nous donne encore de la chance, c'est que la France, c'est un état de droit.
Très bien.
Voilà. Donc la France est un état de droit. Donc dans l'état de droit, c'est juste à le dernier mot. Jusqu'à présent, si la mesure passe par la voie réglementaire, elle peut être contestée devant le juge administratif. Si elle passe sur la voie législative, elle peut toujours être contestée devant le juge constitutionnel via QPC. Mais il faut d'abord créer un contentieux et essayer devant les juridictions. C'est au Conseil d'État ou dans le cadre du QPC, c'est au Conseil d'État ou à la Cour de cassation de transmettre la QPC au juge constitutionnel qui va voir si la disposition contestée, si elle est législative bien sûr, est conforme ou non aux voies de liberté garanties par la Constitution. La QPC, c'est un mécanisme efficace mis en place par le Conseil français depuis la réforme de 2008 et mise en application en 2010, à travers une loi organique de 2010, pour ce genre de d'actes. Bon, pour moi, c'est l'idéal. C'est d'attaquer cette mesure à travers les voies juridictionnelles. Parce que la France, quoi qu'on puisse dire, c'est un état de droit.
C'est un état de droit. Très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci. Monsieur Ba, qui nous appelle de Reims, hein, c'est bien cela?
Effectivement, de Reims.
Oui, c'est ça.
Voilà, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour l'analyse pour qui est très pertinente et qui fera l'objet certainement de réflexions plus poussées en vue d'actions concrètes que pourront mener les associations d'étudiants avec des conseils de bénévoles comme moi. Vous pouvez toujours compter sur moi.
Voilà, merci beaucoup. On va à présent donner la parole à Mohamed Diouf en vous rappelant le sujet du jour, hein, l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Qu'en pensez-vous? 0155 07 58 00. N'hésitez surtout pas à nous appeler. On va prendre Mohamed Diouf. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous
bonjour
vous
monsieur
présenter,
Diouf.
Monsieur Diouf.
Oui, bonjour, maître. Comment vous allez?
Je vais bien. Bonjour, monsieur Diouf. Et Nancy.
Bonjour. Ouais, ça va bien. Donc, bien. Je me présente, c'est monsieur Diouf Mohamed Rassoul, étudiant en Master 2 à l'ICN Business School, spécialisé en finance d'entreprise. Donc, actuellement, je suis le président de l'Association des étudiants sénégalais Nancy. Voilà.
Alors justement, votre analyse hein, par rapport à cette situation, l'augmentation des droits d'inscription hein, pour les étudiants étrangers, est-ce que au niveau de votre association, vous avez décidé de mettre en place des actions hein, dites-nous.
Donc comme on l'a si bien défini, l'objet d'une association, c'est d'établir des liens de solidarité et d'amitié entre les étudiants et de défendre aussi leurs intérêts de tout ordre, d'assurer la liaison entre les étudiants ainsi qu'avec toutes les structures sensibles au bien-être de l'étudiant. Donc pour cette cause, donc nous on a décidé de se réunir et de réunir toutes les associations africaines et des étrangers qui sont en France d'essayer de trouver des solutions pour y remédier. Et face à cette situation, donc nous avons créé un groupe et depuis lors, on fait pas mal d'activités pour pouvoir faire face. Et actuellement, donc nous en sommes. Je peux dire, actuellement, on a des soucis parce que on a des problèmes d'orientation parce que certains ne sont pas des juristes, d'autres ne connaissent pas, par exemple, les voies et moyens à adopter. Donc, actuellement, on est en train de mettre des stratégies qu'on pourrait adopter pour pouvoir faire face à cette augmentation des frais de scolarité.
D'ailleurs, c'est d'où l'intérêt de ce débat et donc des différentes propositions. Effectivement, on pourra aussi y revenir de manière concrète pour vous donner aussi des conseils. Au niveau juridique, stricto sensu, mais au niveau aussi de l'action, il y a de l'action aussi de terrain, je pense qu'il peut aussi jouer. Il y a aussi, comme on appelle aussi, le lobbying, surtout avec ceux qui sont vos amis, ça veut dire les présidents d'université qui, en général, ne veulent pas faire d'amalgame entre le droit au séjour, les frais de scolarité et le droit à l'éducation, comme je l'ai dit tantôt, qui est un droit fondamental. Et ça fait partie des solutions que je vais vous proposer aussi tantôt, tout à l'heure.
Justement, Lutal, est-il possible d'attaquer en justice le gouvernement français pour empêcher l'application de cette mesure ?
Effectivement, il est possible. Et comme l'a ébauché donc, tout à l'heure M. Ba, de Reims, et selon la voie qui sera adoptée pour appliquer cette loi, la voie législative, on prend une loi, ça passe par l'Assemblée, à ce niveau, il va se poser un problème de constitutionnalité. Est-ce que cette loi est conforme aux principes constitutionnels qui relèvent, en ce qui nous concerne aussi, des droits fondamentaux qui sont consacrés, en l'occurrence, par la Déclaration des droits de l'homme? La France, on dit pays des droits de l'homme. C'était en 1789, ça s'est passé ici. Après, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi. Donc, ce principe du droit à l'égalité au niveau de l'éducation ne peut pas être violé par une loi dans l'ordre interne. Donc, il y aurait un problème, certes, de constitutionnalité. Mais même dans ce cas de figure, une loi ne peut pas être appliquée sans pour autant qu'il y ait une décision réglementaire. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, il y aura la possibilité d'attaquer devant le juge administratif pour excès de pouvoir. Parce que la loi, il y aura un règlement, il y aura un arrêté. Il y avait un arrêté, par exemple, qui a été pris l'année dernière, en septembre dernier, pour dire quels sont les frais d'inscription. Il y aura nécessairement, quelle que soit la voie adoptée, un arrêté ou une décision interne qui sera prise et qui pourra faire l'objet par les étudiants, donc d'une procédure d'excès de pouvoir et aussi d'une procédure de référé. Surtout le référé, je vais y venir, c'est ce qui est le plus important pour les étudiants. Je me rappelle en 2009-2010, quand le gouvernement Sarkozy avait pris une mesure concernant les étrangers retenus dans les centres de rétention, j'étais au centre de l'action, isolé par beaucoup d'Africains qui ne croyaient pas, disant que oui, vous perdez votre temps, M. Tal. Or, à travers cette procédure de référé-suspension, on a pu obliger le gouvernement d'Éric Besson et par la suite de Brice Hortefeux, tous les deux, à reculer. Donc, c'est cette procédure qui est très pratique qu'il faudra utiliser pour faire reculer le gouvernement. Utilisée massivement par tous les étudiants étrangers. Et donc, ça veut dire des centaines de milliers. Chaque étudiant peut faire cette décision parce qu'il aura intérêt à agir et il y aura une urgence. Maintenant, le problème qui va se poser, le gouvernement va certainement dire non, vous qui êtes déjà sur le territoire français, ça ne vous concerne pas.
Ah, d'accord.
Et s'ils sont égoïstes, ils vont oublier ce qui va venir. Ah, finalement, donc d'accord. Voilà, la pilule va passer plus rapidement. Mais non, ça concerne dans l'absolu tout étudiant étranger. Il doit y avoir cette solidarité globale. Ça veut dire qu'ils ont toujours intérêt à agir et même ceux qui sont là-bas, qui envisagent de venir ici, peuvent attaquer depuis là-bas. Imaginez le nombre de contentieux qu'il y aura.
Ouais.
Ça veut dire que forcément, il y aura un blocage effectif. Même si la décision serait légale, conforme à la Constitution, il y aurait une possibilité technique de bloquer sa mise en place.
Justement, Mohamed Diouf, est-ce que, en tant que président d'association d'étudiants sénégalais, est-ce que vous convergez avec d'autres associations d'étudiants, histoire de vous mettre ensemble pour converger dans le même combat ?
Bah oui, actuellement on a créé un groupe, c'est ce que je vous disais tantôt. Il y a des étudiants sénégalais, burkinabés, ivoiriens, maliens, guinéens. Nous, on s'est tous réunis dans un groupe pour discuter les voies et moyens à adopter pour pouvoir faire face à cette augmentation. Donc depuis un bon moment, nous menons des actions. Donc on a envoyé des mails, on a envoyé des lettres, on a fait pas mal de choses. Donc avec l'aide, par exemple, des gens comme Maître Tal et tout, donc ils pourront nous recadrer et nous réorienter sur les bonnes voies et moyens à utiliser pour pouvoir contrer ça. Parce que je trouve que cette augmentation est déjà injuste, elle est illégitime.
Très bien.
Vis-à-vis des étudiants africains, parce que nous tous, étant étudiants, quand on va à la fac, nous recevons les mêmes cours.
Voilà.
Il ne peut pas y avoir donc
de discrimination à ce niveau.
Voilà, de discrimination en quelque sorte.
Alors, voilà.
Comme l'a si bien dit mon collègue, M. Ba, donc la France est un pays de droit.
Très
et
bien.
Je pense qu'on peut, l'attaquer par
les voies de droit.
Voilà, merci beaucoup Mohamed Diouf. Je rappelle que vous nous appelez de quelle ville ?
De Nancy.
Voilà. Alors,
parfait. Je voulais ajouter un élément qu'a abordé M. Diouf par rapport à la légitimité. Il faut dire que d'abord, certes, on peut dire que la France est un pays souverain. Et qu'en l'absence d'un droit international ou communautaire interdisant toute différence de traitement entre les nationaux et les étrangers, elle est en principe en droit de le faire. C'est un argument que va utiliser des gens parfois qui sont un peu vers la droite, qui vont dire que mais non, on est souverain. Pourquoi on ne serait pas obligé ? On serait obligé donc d'écouter les étrangers. On a la possibilité de privilégier les nationaux, ce qu'on appelle la préférence nationale. Par contre, cette augmentation des droits d'inscription devient illégale s'il existe un droit conventionnel bilatéral qui s'y oppose. Par exemple, des conventions entre le Sénégal et le Gabon, le Sénégal et la Guinée, ainsi de suite. Donc, il faudra voir cela. C'est des possibilités aussi de régler ce problème-là au niveau conventionnel. Et comme par exemple la convention qui peut exister dans le cadre de la réciprocité pour l'accueil des étudiants étrangers. Néanmoins, cette légitimité aussi évoquée par M. Diouf peut être aussi remise en cause. Parce que du point de vue moral, au regard des relations entre l'Afrique francophone et la France, est-ce qu'on peut parler de légitimité ? Est-ce qu'on a choisi d'avoir le français comme langue officielle ?
Ouais,
on ne l'a pas choisi ?
Bonne question.
Est-ce qu'on a choisi de faire des études en français ? Non. On nous l'a plus ou moins imposé à travers la colonisation. Je ne reviens pas sur des considérations un peu archaïques, mais des considérations pragmatiques. À partir du moment où il y a ce rapport privilégié qui fait qu'on nous l'a donné, est-ce que même au niveau de la légalité, la France n'aurait pas une responsabilité sur le champ civil ? Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, obligeant celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc ça, ce sont des pistes que vous pouvez invoquer, M. Diouf. Pareil, toujours pour la négation de la légitimité, on vous dira aussi l'argument selon lequel les droits d'inscription qui sont discriminatoires, sont plus chers dans d'autres pays. Sinon, on ne peut pas faire, par exemple, une discrimination, selon moi, on ne peut pas utiliser cet argument, parce qu'on peut sur cette base, justifier une discrimination au niveau de l'école, de l'accès à l'école. Je veux dire, l'école primaire, on peut dire les enfants étrangers, vous allez payer, les enfants nationaux ne vous payent pas. Ben. Or, le Code de l'éducation dit carrément de manière claire, en son article L131-13, qu'il ne peut y avoir de discrimination dans l'accès de l'éducation, même dans l'accès des cantines scolaires. Au contraire, on aide les familles plus pauvres à y accéder. Donc ça, ce sont des éléments que vous pouvez aussi invoquer. Et surtout, en dernier lieu, que, comme vous l'avez dit, la France est un pays de droit et c'est dans le droit français même qu'il faut chercher les arguments pour contre-attaquer.
Le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1.
Le droit et nous dans la grande matinale avec Aloutal sur Africa numéro 1.
Il est exactement 9h30, augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Qu'en pensez-vous ? Le gouvernement a décidé d'augmenter les droits d'inscription des étudiants étrangers dans les universités françaises dès la rentrée prochaine. Cette mesure aura forcément comme conséquence de diminuer considérablement le nombre d'étudiants africains en France. Vous pouvez réagir en direct au 01 55 07 58 00. Appelez-nous en direct. On va à présent donner la parole, je pense qu'il y a Monsieur Ibrahima Dia qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue, nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur
Dia. Vous nous appelez de quelle ville ?
Bonjour Monsieur Tal, de Nantes.
De Nantes, à Nantes. Nous vous écoutons.
Monsieur Dia, vraiment merci déjà pour la participation. Et comme on l'a fait avec les autres, nous voudrions savoir quelles sont les idées, la température au niveau de cette mesure, comment vous l'avez pressentie et comment vous l'analysez au niveau local.
Ben, moi, je trouve cette mesure juste, injuste, inégalitaire et à la limite discriminatoire. Ben, injuste dans la mesure où elle anéantit tout simplement le projet d'étude de milliers de jeunes étudiants, notamment ceux issus de familles modestes, comme la plupart des étudiants africains en fait. Aujourd'hui, M. Tal, nous, étudiants étrangers, nous sommes obligés de travailler à temps partiel pour non seulement financer nos études, mais aussi répondre aux besoins et ça du quotidien. Mm-hmm. Les étudiants étrangers gagnent environ 600 à 700 euros par mois. Mm-hmm. Avec cette somme, il faut payer le loyer, la nourriture, mm-hmm. les factures du verre et les frais de transport. Ouais. Mais comment peut-on prendre unilatéralement une décision pour dire ou demander à ces étudiants-là d'économiser et de payer dans 10 à 11 mois 2770 euros ou 3770 euros. Pour moi, c'est juste impossible et ils ne pourront pas payer ces sommes exorbitantes.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Effectivement, et je pense que quand même, comme les autres, vous êtes en train de préparer des actions. Dans quel sens vous voulez penser ces actions-là? Au niveau des manifestations ou bien des actions juridiques ou judiciaires, qu'est-ce que vous pensez mettre en place?
Ici à Nantes, je pense qu'on a déjà commencé à mener des actions il y a longtemps. Mm-hmm. Depuis le lendemain du discours du Premier ministre qui annonce cette décision, mm-hmm. nous avons formé un collectif contre la hausse des frais d'inscription qui est composé mm-hmm. de notre association, l'association sénégalaise, et plusieurs autres associations africaines.
Très bien.
Mais aussi du syndicat des étudiants à l'UNEF mm-hmm. et des associations d'étudiants français. Donc nous avons mené des actions, il y a eu des actions de sensibilisation et même nous sommes allés plus loin pour faire deux manifestations au niveau de la ville de Nantes.
Ah c'est très
et
bien,
puis,
sensibiliser.
Oui, pour sensibiliser
la population.
Même, oui, c'est ça en fait. Et puis même des blocages au niveau de l'université de Nantes.
Donc, très bien.
Il y a des actions qui sont déjà menées.
Et des actions concrètes.
Nous allons continuer sur cette lancée.
Très bien. Et vous avez évoqué une question très importante. Les défauts de concertation, non seulement ça choque au niveau de la méthode, mais je peux vous donner un argument. Juridiquement, ça peut compromettre la légalité de la décision. En l'occurrence, au regard de l'article L123-1 du Code de l'éducation, qui impose au gouvernement à ce qu'il y ait préalablement à la prise de cette décision, qui est nécessairement une concertation dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, auquel doivent participer à la fois les partenaires sociaux, économiques, la communauté scientifique de l'enseignement supérieur et les syndicats d'étudiants. Donc cette mesure ne pourra jamais avoir lieu avec une légalité sans que vous ne soyez sollicité pour y participer. Donc c'est un élément très important que vous venez d'évoquer. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, M. Ibrahima Dia, qui nous appelait de Nantes. C'est
de
ça
Nantes.
De Nantes. Et on salue tous les Nantais qui nous écoutent sur les www.africa1.com et peut-être bientôt en DAB+. On va prendre Daniel. Daniel qui pense que c'est une mesure discriminatoire. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour,
moi, j'appelle au sujet, bien sûr. Merci de me donner la parole, s'il vous plaît.
Allez-y.
J'appelle pour... Bon, je suis un peu déçue de savoir que la France puisse prendre des décisions pareilles concernant nos pays africains. Ce sont eux, nous n'avons pas choisi d'être...
De parler français, d'étudiants français.
Ce sont eux qui sont venus vers nous.
Exactement.
Ils voient comment... La France voit comment les études se passent dans nos pays. Les études primaires, secondaire et universitaire. Les étudiants africains ne remplissent pas les universités en France. C'est les histoires. Et ce n'est pas les derniers élèves non plus. Ils travaillent très bien. Donc, je ne vois vraiment pas la raison, je ne comprends pas la raison qui a piqué le gouvernement français pour prendre pareille décision. Parce qu'ils veulent toujours que nous soyons leurs esclaves. Non, c'est révolu ce temps.
D'accord.
Nos merci. Chefs d'État africains devaient se lever pour discuter et taper sur la table avec les chefs, avec les dirigeants européens, français particulièrement, puisque c'est une loi qui concerne la France, une décision qui concerne la France. Ils devaient taper sur la table.
Parfait. Merci Daniel. Sur ce point, je vous rejoins, mais je pense qu'il faut le faire avec la diplomatie. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au niveau diplomatique, pas taper sur la table pour crier parce que c'est pas leur pays, mais au niveau diplomatique, au niveau des relations bilatérales, au niveau de la négociation bilatérale, au niveau de la réciprocité, il y a des moyens d'action. C'est en ce sens que c'est utile.
Il n'y a pas de réciprocité, je suis désolée.
Oui, non, mais madame, non, je ne dis pas qu'il y ait de la réciprocité, je dis que c'est à ce niveau qu'il faut négocier cette réciprocité. Si elle n'existe pas, c'est ce qu'il faut négocier. Ce n'est pas la contestation frontale qui n'aura aucun intérêt. Il faut être pragmatique dans ce combat.
Je vais
ajouter un autre élément, s'il vous plaît, si vous me permettez.
Oui.
Effectivement, je vous rejoins dans la mesure où effectivement cette mesure va créer de la contestation et au contraire va diminuer l'influence de la France en Afrique. Donc ça veut dire que ça se pose un problème d'opportunité. Et les étudiants iront naturellement dans d'autres pays, en l'occurrence l'Amérique du Nord, l'Ukraine, la Chine, l'Arabie Saoudite,
le Canada.
La Turquie, le Canada, les États-Unis. Mais il faudra tenir comme élément fondamental que le service public de l'enseignement supérieur en France doit promouvoir la diffusion de la francophonie comme le veut l'article L123-2 du Code de l'éducation.
Au lieu
de diminuer cette francophonie, c'est en cela que je vous rejoins. Néanmoins,
nos parents gagnent combien pour payer
d'accord.
ce montant-là pour nos enfants, les
Je suis parfaitement, je suis parfaitement d'accord. Jusque le conseil que je donne aux gens, c'est de ne pas rester dans le dogme contestataire, mais dans le pragmatisme contestataire avec des moyens de droit qui existent.
Exact.
Et que ces moyens, comme l'ont dit les étudiants, existent dans le droit français.
Voilà, et c'est l'objet de cette émission. Oui. Merci beaucoup,
merci,
madame.
Tout le monde devait se lever pour ça.
Exactement.
Merci beaucoup, madame Danielle,
pour votre contribution. On va prendre mademoiselle Linda Namfak. Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
bien
madame,
Linda,
madame
Linda Namfak.
Merci.
Bienvenue, nous vous écoutons. Vous
bonjour,
êtes étudiante.
Bonjour, Linda Namfak, c'est Mouchetal.
Bonjour.
Oui.
J'ai été déçue par cette mesure prise par le gouvernement.
Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes dans quelle ville?
Cameroun, je crois.
Je suis camerounaise, je suis dans la ville du Mans.
Ok, au moins.
Vous nous appelez à travers toute la France, c'est très bien.
Merci.
Oui. J'ai commencé mes études au Cameroun et je suis venue les poursuivre dans la ville du Mans.
Oui.
J'ai eu l'opportunité que mes petits frères, peut-être, ne l'auront pas, quoi. Mm-hmm. J'ai eu l'opportunité de venir continuer mes études en France, dans les laboratoires équipés. Ces avantages, je ne les avais pas quand j'étais en Afrique.
Ça, c'est vrai.
Donc, j'ai profité du partenariat que la France avait avec le Cameroun pour venir en France continuer mes études.
Mmh.
Et là, avec cette mesure prise par le gouvernement, je me rends compte que mes petits frères n'auront pas forcément cette possibilité-là.
Mmh.
Ils seront limités par les frais de scolarité, ce qui n'est pas normalement acceptable, quoi.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Effectivement, donc en tant qu'étudiante, à titre personnel, ça vous choque, mais je pense que comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas se dire que moi je suis sauvé. Allez, débrouillez-vous, ceux qui sont là-bas.
Justement, je ne peux pas dire que je suis sauvé. Mes petits frères, j'ai des petits frères qui sont à l'université, qui normalement comptaient venir poursuivre leurs études ici l'an prochain. Mais là, avec l'augmentation des frais de scolarité, les parents n'auront plus forcément la possibilité de les envoyer faire leurs études à l'étranger.
Effectivement. Donc, et comme vous l'avez dit, cette mesure aura l'effet incontestable de priver la France de ce potentiel, de cette matière grise africaine qui venait ici, qui jouait quand même un rôle. Finalement, il n'y aura que les Africains riches qui viendront, les Africains pauvres resteront, mais par contre, on va essayer de relocaliser ce contingent africain en leur disant « Restez chez vous, on va vous offrir des universités françaises ». Mais non, l'intérêt, c'est d'aider ces établissements africains à avoir au moins un niveau similaire au niveau international et non pas de créer des écoles et des antennes d'écoles françaises en Afrique pour nous garder là-bas.
Je voulais vous demander à l'UTAL, est-ce que la France doit faire une exception pour les étudiants africains?
Question pertinente. En mon sens, oui. Pourquoi? Parce qu'on parle des étudiants étrangers de manière globale.
Ouais.
Cette mesure va concerner tous les étudiants étrangers, sauf les étudiants européens. Ils sont étrangers, mais ils sont dans l'Europe. La France ne peut pas faire de discrimination parce qu'il y a la réglementation européenne, donc sur la liberté de circulation de ces étudiants. Mais pourquoi une mesure spécifique par rapport à ces étudiants africains? Comme je disais ça, c'est la francophonie. C'est la langue qu'on utilise depuis un temps et qui nous a été quand même imposée dans nos administrations. Et au-delà même de ça, il y a d'autres procédés qui dépendent de la langue, les outils administratifs sont en français, le système éducatif est calqué sur le système français. Si on nous dit maintenant aller ailleurs, ça pose un problème. Soit nous on l'assume, on se dit que maintenant on n'est plus francophone, on va être à la fois francophone et anglophone. Comme ça nous donne un champ.
Exactement.
Le contingent dont vous voulez pas, on va les envoyer en Arabie Saoudite, en Ukraine et même en Russie. Ils vont apprendre en russe. Parce que finalement, quel que soit le mode de l'apprentissage, le savoir est le même. Ça peut être une des conséquences. Et ça, ce serait vraiment dommage par rapport à l'histoire commune, par rapport à cette relation qui est même très lointaine
et historique,
historique qu'on a avec la France. Mais vous me permettrez d'apporter quand même quelques éléments de droit avant d'aboutir sur ça pour donner des conseils aux étudiants, pour leur dire que, comme on a dit, ils l'ont bien dit, c'est dans l'application du droit français qu'il faut remettre en cause la légalité. Et cette mesure viole la loi. En l'occurrence, il faut se reposer sur la Constitution qui interdit toute discrimination en matière d'accès à l'éducation. Ça, c'est de 1. Cette Constitution a été aussi consacrée dans le droit interne et en l'occurrence dans le Code de l'éducation. Ces articles L111 et suivants et L123, comme je l'ai souligné, disent que l'enseignement supérieur est un service public. Mmh. Pour tout étudiant qui a étudié en droit administratif de service public, on nous l'a appris d'ici, c'est des livres d'ici qu'on a utilisés partout en Afrique. Il ne peut y avoir aucune discrimination entre les usagers du service public. Or, il a été bien dit clairement que l'enseignement supérieur est un service public. Mieux encore, ce même code, dans sa mouture qui est issue de la loi du 8 juillet 2013, dispose que l'éducation doit être accomplie par l'État sans aucune discrimination en veillant à l'égalité des chances de tous les étudiants et élèves sans distinction d'origine et de nationalité. Mmh. Ça veut dire que cette mesure va être en porte-à-faux, en violation de cette disposition. La France ne peut pas prendre une loi qui va violer sa propre loi.
Exact.
Donc ça, c'est un argument que devraient utiliser les étudiants africains. Mmh. Autre argument, cette mesure crée une discrimination selon qu'on est français ou européen d'une part ou étranger originaire de pays tiers. Alors que la loi, en l'occurrence l'article que je viens de citer, L111, interdit toute distinction de l'accès à l'enseignement et oblige l'État français à veiller à ce qu'il y ait une mixité sociale.
Ouais.
Or, si on applique cette décision, il n'y aura plus de mixité.
Exact.
Tout le monde sait que tous ces Africains pauvres resteront chez eux. Le petit frère de Madame Nafak, moi, mon petit cousin ou bien moi, mon neveu ne viendront pas. Nous, on est pauvres. On ne fait pas partie des gens qui ont des attaches chez des ministères ou bien qui ont des chances d'avoir des parents qui sont riches. Donc ça, c'est un problème. Autre solution que je donne aussi aux étudiants, c'est que le Code de l'éducation dispose que le droit à l'éducation est garanti à tous. Elle ne prévoit aucune différence de traitement entre nationaux et étrangers. Au contraire, la loi prévoit qu'elle doit aider, l'administration doit aider les étudiants les moins fortunés à accéder aux services de l'éducation. Les étudiants africains, pourquoi on devrait les aider comme vous l'avez posé, Phil? Il s'avère que techniquement, on fait partie des moins avancés au niveau économique et social.
Exact.
Or, la loi dit que ces étudiants-là, il faut les favoriser. Autre solution, pour ne pas violer ces textes, l'État français devrait d'abord aborder la modification de sa constitution pour transformer un principe fondamental. Qu'on sait tout le monde, article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux.
Égaux.
Il faudra maintenant qu'on dise que les hommes naissent libres et égaux s'ils sont français en matière d'éducation, s'ils sont étrangers, ils peuvent être discriminés.
Ça, oui, Alutal, on va. Merci beaucoup, mademoiselle Linda Nafak. Passez une excellente journée.
C'est à moi de vous remercier pour les conseils.
Voilà. Merci beaucoup pour votre appel. Depuis Le Mans, nous sommes au cœur de la France. On va à présent partir du côté de Dijon. Où nous attend mademoiselle Radi, qui est étudiante sénégalaise. C'est Kadi ou Radi? Bonjour.
Oui, bonjour.
Radi Sen.
Oui.
On dit Radi ou Kadi?
Non, on dit Radi.
Radi, moi je le dis. Je le dis en sénégalais.
En sénégalais, oui. Bonjour, madame Sen.
Bonjour, madame Sen.
Oui, bonjour.
C'est monsieur Tal, bonjour.
Oui. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour, monsieur Tal. Oui. Alors, moi, c'était juste une petite contribution par rapport à ce sujet qui est très intéressant et qui nous intéresse, nous tous particulièrement, nous les étudiants étrangers. Donc, en fait, moi, je voulais juste dire que la préfecture, déjà, elle nous autorise certes à travailler, mais on ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures par an. Donc, on a le droit de travailler que 964 heures par mois, il faut le dire. Donc, effectivement, si on augmente les frais d'inscription pour un Master 2 à 3 700 euros,
oui.
C'est juste pas possible, c'est juste impossible, en fait, qu'un étudiant étranger puisse s'inscrire avec un tel montant, c'est juste impossible, on ne peut pas faire ça.
Et survivre, et donc, surtout, en plus survivre pour payer ses loyers, comme vous le dites, et donc manger aussi,
et
payer ses charges.
En fait, effectivement, il n'y a pas que les inscriptions, il y a les inscriptions et il y a aussi les charges quotidiennes.
Oui.
Et moi, je pense que cette mesure, en fait, elle va faire à ce qu'il y ait plus maintenant de sans-papiers, parce que les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être quand ils vont venir, ils vont s'inscrire une année, une deuxième année et encore. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les étudiants qui ne veulent pas rentrer chez eux?
Très pertinent.
Ils vont rester ici, ils vont privilégier le travail et rester sans papier ici. en France.
Et donc, ça, je pense que c'est un risque. Vous devez donner ce conseil au gouvernement français. Je pense qu'ils ne l'ont pas appréhendé. Parce que les gens prennent des mesures sans penser à après-mesure, l'après-mesure. Les étudiants peuvent venir massivement. Ça peut être une forme de contournement des voies migratoires. Je sais que je ne pourrais pas tenir. J'y vais quand même la première année. Je deviens immigré. Comme tout le monde, clandestin. Quelques années après, je vais demander l'asile. Comme quoi, je suis homosexuel dans mon pays, le Sénégal, sachant que peut-être il ne l'est pas du tout. Et donc, vous trouvez d'autres moyens. Donc, ce que vous dites, c'est très pertinent à mon sens. Parce que vous l'avez dit. Oui, allez-y, madame. Oui. Terminez, je vous laisse
terminer. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, parce que les mesures pour rester en France ne manquent pas. Comme vous l'avez dit, hein, vous avez bien trouvé l'exemple, et c'est bien votre domaine, donc vous savez très bien que toutes les voies sont possibles ici pour rester en France, donc tout le monde le sait. Mais un étudiant qui quitte chez lui, je pense que lui, son objectif, c'est de faire ses études en France et
d'aller jusqu'au bout.
Après, voilà, exactement, d'aller jusqu'au bout. Maintenant, le fait de rentrer ou pas rentrer, ça, c'est un choix personnel.
Oui.
Mais je pense que voilà, son objectif premier, c'est de venir faire ses études en France.
Très bien.
Donc, quand lui impose un tel montant qui est doublé de 500 euros fois 10, je sais pas. Mais c'est vrai, parce que forcément, il pourra pas.
Et madame Sen, moi je pense que ce que vous dites là, il y a, juste vous avez taquiné, mais je pense que le nombre de bébés gris et de mariages gris sera proportionnellement augmenté que le nombre de droits d'inscription. Les gens vont faire des bébés pour rester, ils vont faire des mariages pour rester. Ça, c'est un risque très probable.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Merci
voilà,
beaucoup. C'est...
Merci.
Enfin, merci pour votre analyse. Je voulais juste vous ajouter qu'effectivement, la loi vous imposant de faire que 964 heures. Et que la loi vous permet aussi de justifier de vos revenus par rapport au travail, beaucoup d'étudiants seront tentés à outrepasser cette contrainte et finalement à violer la loi sur le séjour et à perdre leur titre de séjour et à devenir des sans-papiers. Donc techniquement, même ceux qui viendront risqueront finalement de se retrouver sans-papiers et d'autres ne pourront pas venir. Finalement, au bout du compte, cette loi interdit la France aux étudiants africains.
Voilà, merci beaucoup. Mademoiselle Radhi Sen hein, de Dijon, merci pour votre intervention. On va terminer avec un dernier auditeur au téléphone, Monsieur Tameux. Je suis camerounais. C'est pas juste l'affaire des étudiants, même les étrangers travailleurs doivent se mobiliser. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur Tameux.
Oui, alors je suis Eric Tameux. Je travaille pour une grande société française depuis 13 ans. J'ai fait mes études aussi en France. Et depuis que je vous écoute, j'entends juste des étudiants qui essaient de se mobiliser.
Parce que
c'est le sujet. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est de dire que c'est pas juste une affaire des étudiants, parce que même nous, les travailleurs étrangers qui avons fait nos études en France, nous devons nous mobiliser. En fait, moi, je lance un appel les travailleurs africains, parce que moi je paye des impôts, comme tout le monde, je paye des impôts qui sont assez élevés, et je pense que ce sont nos impôts, y compris pour les étudiants, pour les travailleurs étrangers qui financent l'éducation en France. Donc je ne vois pas pourquoi les étudiants étrangers devraient payer des droits de scolarité plus élevés que les étudiants français. Je ne suis pas juriste, mais je pense que parmi nous, les étudiants en France, étrangers, nous avons beaucoup d'avocats. Moi, j'ai des amis avocats qui travaillent en France dans des grosses sociétés. On doit mettre toutes nos compétences pour aider les étudiants étrangers à mener cette lutte. Donc moi, vraiment, mon appel aujourd'hui, c'est de lancer un appel à tous les étrangers qui travaillent en France, parce que je trouve que c'est profondément injuste cette loi. C'est vrai que l'État doit gérer des économies, ils essaient de récupérer des sous partout, mais nous aussi nous payons des impôts. Moi je paye des impôts de plus de 8000 euros chaque année et donc je suis profondément indigné par cette loi.
Voilà, les travailleurs doivent se mobiliser. Merci beaucoup monsieur Tameux pour votre intervention, mais je voulais vous demander, est-ce que les étudiants doivent être des gilets jaunes? Je dis ça, je dis rien.
Moi, je pensais plutôt gilet noir, parce que comme on est plus ou moins noir si c'est des Africains. Sinon...
Voilà.
Vous me faites rire, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, la notion de gilet... Ou bien, quand même, faire une ramification, effectivement, je pense que si c'est une problématique globale, les gilets jaunes, ce n'est plus que l'augmentation du prix de l'essence. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une ramification avec les autres syndicats comme l'UNEF et pour intégrer cette mouvance. Voilà, c'est à eux de voir. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à l'élément qui a été donc soulevé par M. Tameux...
Pour conclure,
Pour conclure... Il a parlé de fiscalité, il paye ses impôts. Or, ils vont probablement utiliser l'argument de la fiscalité pour dire que, ceux qui viennent d'arriver, ils n'ont pas la résidence fiscale. Donc, ceux-là doivent payer. Ceux qui sont là, à partir de 2 ans, comme ils l'ont fait pour les écoles d'ingénieurs, ceux-là, on va les arrimer sur les étudiants qui sont ici. Mais effectivement, ce serait fallacieux. Comme il l'a dit, il paye des impôts. beaucoup d'Africains. Ils sont combien? C'est des centaines de milliers d'Africains qui paient des impôts. Donc, ces gens-là ont une résidence fiscale. Leurs neveux, leurs nièces, leurs enfants devraient pouvoir bénéficier d'un même système au terme et au titre de l'égalité. Donc, c'est un argument pertinent qu'il faudra développer à ce niveau-là aussi pour faire le combat.
Augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez continuer à réagir sur le répondeur de la radio africaine au 01 55 07 58 05 et retrouver justement en podcast cette émission sur notre site www.africa1.com. Et si vous voulez poser des questions à Lioutal, vous pouvez composer le 06
16 05 45 51. Voilà. Juste rappeler que mon nom c'est Aliou. A-L-I-O-U. Voilà. Mon nom de famille c'est T-A-D-L. Parce qu'il y en a qui m'appellent Halloween, Alléluia. J'ai tout entendu.
Merci Alutal.
Merci Phil.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Alutal sur Africa numéro 1. Le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1.
Elle était mort Natiki Wan Dolo Nemedin de mort Natiki Wan Dolo Neitapon Nabia Nawando Mendebe Nyena mulima mwa mupasino Nasima pula e pula wo Nongomba kaneno iyo iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo na boinde oja kwa sonando lo bukate Iyo iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo na boinde oja kwa sonando lo bukate Nongele temo na menende si sango ngome yande mo hey di mende sa wala uboso neitapon na biya na wando mende be. Pula e pula wo Nongo bakane no Iyo iyo ndolo
Voilà, c'est pratiquement la fin du plus de la grande matinale. Encore merci pour votre fidélité au programme de la radio africaine. 9h54, ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, c'est Ambiance Africa jusqu'à 13h avec Aïssa Thiam. Ne bougez pas.